Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. En 2026, poursuivons nos habitudes et débutons cette chronique numéro 19 par les minutes remue-ménage en allant voir les processus induits par la marche chez les autres, écrivains ou philosophes. Aujourd'hui, Samuel Johnson, écrivain et lexicographe anglais du XVIIIe siècle, 1709-1784, qui a eu un rapport marquant avec la marche, à la fois comme activité physique et comme pratique intellectuelle. Il a connu, pour ses nombreuses promenades dans Londres, qui lui ont permis de réfléchir et de composer ses pensées. Ses déambulations étaient souvent inspirées par des rencontres fortuites et des observations de la vie quotidienne. Johnson voyez la marche comme un moyen d'éclaircir les idées et de nourrir sa créativité. Par ailleurs, le malheureux, il a souffert de problèmes de santé, dont notamment la goutte, ce qui a parfois rendu la marche difficile pour lui. Mais malgré cela, il a continué à se déplacer à pied, ce qui témoigne de sa détermination et de son engagement envers sa passion pour la littérature. Dans ses écrits, Johnson a souvent souligné les bienfaits de la marche, tant pour le corps que pour l'esprit. Il trouvait dans la marche un remède à l'anxiété. Il disait « Le remède le plus sûr contre l'ennui, c'est de se mettre en marche ». Il considérait que marcher offrait une forme de liberté et une chance d'évasion, tout en permettant la contemplation et la réflexion.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Dans notre précédente chronique, nous avons évoqué cette fabuleuse transhumance de Homo sapiens qui, au fil des millénaires, a pris pied sur l'ensemble des territoires de notre planète. Cela a pris du temps, bien sûr, car la marche était le seul moyen de locomotion. De plus, le peuplement de la Terre a été un processus complexe, impliquant des migrations successives et des adaptations culturelles aux différents environnements. Ce sont ces phases qui ont jeté les bases de la diversité humaine et des différentes sociétés que nous connaissons. La période entre moins 3000 et moins 100 avant Jésus-Christ est marqué par d'importants développements dans divers domaines, notamment les civilisations, bien sûr, les technologies, la culture et les échanges. C'est à cette période que s'établissent, que se sont établies les grandes civilisations, notamment en Mésopotamie, avec des cités-états comme Ur, Babylone et Uruk, qui ont prospéré en développant des systèmes d'écriture cunéiforme et des codes de loi, comme le code Hammurabi. Il y a ensuite l'Égypte ancienne et l'ère des pharaons, avec des réalisations monumentales comme les pyramides, qui a développé des progrès dans l'architecture et une organisation sociale hiérarchisée. Autre grande civilisation dans la vallée de l'Indus, avec des villes planifiées comme Harappa ou Mohenjo-Daro. Là encore, cette civilisation a développé un système d'écriture et des avancées dans l'ingénierie hydraulique. Et puis, il y a la Chine ancienne, avec de nombreuses dynasties comme les Shang, qui ont émergé avec le développement de la métallurgie du bronze et une organisation politique centralisée. On l'a déjà dit, les déplacements se faisaient au début essentiellement à pied. Puis, le passage à l'agriculture, grâce à l'élevage, est venu pourvoir au déplacement grâce à des quadrupèdes domptés puis domestiqués qui vont souvent servir donc de monture, notamment pour les grandes distances. Plus tard, une innovation viendra bouleverser les moyens de locomotion et les échanges. C'est tout simplement l'invention de la roue qui va faciliter le transport de biens et de personnes, améliorant ainsi le commerce. Les techniques agricoles, elles, durant ces trois millénaires, ont énormément évolué avec des cultures comme le blé, l'orge et le riz, bien sûr, soutenant des populations de plus en plus nombreuses. Ensuite, la métallurgie, avec le développement du bronze, alliage du cuivre et d'étain, a permis des outils et des armes plus durables, entraînant des changements dans les pratiques militaires et agricoles. Inutile de dire que les échanges entre ces zones n'ont fait que se développer avec des routes commerciales, alimentant les transactions entre les civilisations et favorisant les réseaux commerciaux comme la route de la soie reliant l'Orient à l'Occident. Évidemment, on assiste en même temps à des interactions entre les cultures qui ont conduit à des influences mutuelles dans l'art, la religion et les technologies. Se poursuit alors une évolution des structures sociales et politiques. Les sociétés sont devenues plus stratifiées avec une élite dirigeante, des prêtres, des artisans et des agriculteurs. On assiste à l'émergence de royaumes et d'empires qui vont aboutir à des structures étatiques complexes avec des systèmes de gouvernance plus sophistiqués. Sans oublier la culture et les religions, avec des croyances religieuses qui ont joué un rôle central, avec des dieux représentant des forces de la nature et des concepts abstraits. Pour parachever le tout, l'art et l'écriture. L'art est devenu un moyen d'expression culturelle, tout comme l'écriture qui a permis d'enregistrer les événements historiques, les transactions commerciales et les pensées philosophiques. Donc, entre 3000, moins 3000 et moins 100 avant Jésus-Christ, le monde a évolué d'abord au rythme de la marche à pied, puis il a subi des transformations profondes qui ont jeté les bases des civilisations modernes. Les échanges culturels, les innovations technologiques et les développements sociaux ont influencé la manière dont les sociétés humaines se sont organisées et interagissent encore aujourd'hui.
Vous êtes bien sur Radio FM+, et vous écoutez Je marche, donc je suis. I'm not trying to have another conversation.
Probably not gonna wanna play me on your station. Bien, il est temps de faire une petite pause musicale. J'avais débuté l'année avec un tour de chansons évoquant la marche. J'abandonne ma quête car les chansons évoquant la marche au premier degré ne sont pas très nombreuses et d'une qualité musicale limitée. Je vais donc puiser dans les chansons qui évoquent la marche et très souvent la fuite au deuxième degré. Aujourd'hui, un standard du rock psychédélique, Hey Joe, interprété par Jimi Hendrix. C'est l'éternel thème de l'amour qui est repris ici dans la déprime d'un homme trompé par sa femme. Il est donc question de trahison, de colère, d'abattement, de vengeance et ensuite de fuite pour s'extraire et se libérer du contexte, mais avec une rédemption plus qu'hypothétique.
Messing around with another man.
Robert Amalric, Je marche donc je suis, deuxième partie. C'est le moment privilégié où j'accueille un invité. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Guy Matteo, le président de l'Association pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en région Languedoc-Roussillon. Le siège de cette belle association est à Saint-Guillaume-le-Désert, mais elle assure une permanence tous les premiers mercredis du mois, hors vacances scolaires, à la salle Barthélémy à Latte. Alors aujourd'hui, bonjour Guy.
Bonjour Robert.
Nous allons nous mettre un peu dans la peau du pèlerin et des questions qui se posent avant de, pour préparer à la fois ce périple et vivre ce périple ensuite. Donc, la première question peut-être qu'il y a, c'est si on part de Montpellier pour aller jusqu'à Saint-Jean-de-Compostelle, c'est quand même un sacré périple que tu as fait, je crois.
Oui, 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 c'est un sacré périple, mais les chiffres font peur. Mais ça se fait très, très facilement. Il y a, je dis les chiffres, 1402 km et 62 jours. Voilà, gentiment, ouais. Pour faire 22-25 km par jour et arriver à Compostelle.
Avec un bilan de pas qui dépasse les 2 millions.
Avec effectivement plus de 2 millions de pas. Mais ça dépend du compas. Les grands font moins de pas que les petits. En ce qui me concerne, c'était effectivement 2 millions de pas.
Voilà. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui se prépare. On ne s'improvise pas comme ça, se lancer sur un pareil périple. Alors, bien sûr, il n'est pas obligatoire de le faire en 2 mois sans s'arrêter, mais il y a toutes les formules, n'est-ce pas ?
Voilà. Il n'y a aucune obligation. Chacun fait son chemin. Chacun choisit son itinéraire. En règle générale, le pèlerin ferme la porte de sa maison et part vers Compostelle, donc il crée son propre chemin, il n'y a rien d'obligatoire. Il faut savoir quand même qu'il faut une semaine pour sortir en moyenne des problèmes physiques. La répétition, les 20-25 km par jour, ça fatigue un petit peu et on met en gros une semaine pour sortir des problèmes physiques. On met 2 semaines pour sortir des problèmes psy un petit peu autour, relationnels, tout ça. Et au bout de 3 semaines, on est carrément dans la bulle des pèlerins et on est complètement détaché. Et l'aventure, là, prend toute sa dimension.
Là, c'est vraiment le trip complet où on arrive à accéder, je dirais, à des sensations bien particulières si on accepte de passer plus d'un mois sur les routes.
C'est ce qui fait peur au départ, quitter la famille, quitter les enfants, les petits-enfants. Mais bon, les réseaux fonctionnent bien. Pour la petite histoire, nos enfants nous avaient obligés à tenir un blog journalier. Donc ça se fait sans problème. Internet, les smartphones, ça passe de partout. On garde les contacts. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une chance de pouvoir le faire en une seule fois. Après, chacun vit son aventure, il n'y a pas de problème.
La prépare, effectivement. Donc la prépare, alors que faut-il, quelle investigation y a-t-il derrière ce choix et ce périple organisé ?
Voilà, c'est fondamentalement notre mission à l'antenne qu'on a mensuelle sur l'AT. La première question, c'est le choix du chemin. Je pars du Puy-en-Velay, je pars du Vézelay, je pars de Tours, je pars d'Arles, qui sont les principaux GR qui ont été créés dans les années 80, me semble-t-il, et qui sont super bien balisés. Donc il n'y a pas de souci de lecture sur le terrain. Donc Internet, les amis, les associations, et on va définir son chemin. Ensuite, quel temps on va y consacrer, les problèmes familiaux, professionnels, et on va définir le la première difficulté, c'est de définir la date de départ. Et je crois que quand on a défini la date de départ, j'ai l'habitude de dire, on la communique à tout le monde, et au moins si on ne la tient pas, on perd la figure.
C'est le premier pas le plus grand à passer.
Ouais. C'est ça. Après, on a coutume de dire, Saint-Jacques y pourvoira toutes les difficultés s'aplanissent, et ça, tout le monde est d'accord pour le dire, il n'y a plus de difficultés, tout glisse, tout avance très, très facilement.
Donc ouais. Le premier pas, qui peut être le plus pénible, mais qui permet ensuite je veux dire, d'aligner et de passer au concret avec les étapes, les hébergements, non?
Voilà, c'est ça. Donc, on va définir suivant son degré d'inquiétude, en fait. Les gens très inquiets vont faire des tableaux Excel avec tous les hébergements de prévus, toutes les distances, tous les ravitaillements. Et ceux qui sont un petit peu moins inquiets, ben, ils vont fermer leurs portes, et on en connaît. Notre ami à Frontignan est comme ça. Il ferme la porte, il prend son sac à dos et il part. Et au gré des rencontres, au gré des discussions, ça avance, ça planifie très facilement.
Oui, les problèmes, en fait, c'est surtout le départ et se jeter en quelque sorte dans cet inconnu qui peut être un frein au départ, mais dès qu'on est dans la course, à ce moment-là, voilà. Difficultés s'aplanissent.
Tout s'aplanit, on ferme la porte, on part, et après, ben, je dors où ce soir, je mange quoi à midi. Les habits, on n'a pas trop de soucis parce qu'il y en a très très peu. Il y a deux t-shirts, trois slips et puis deux paires de chaussettes. Voilà, une bonne paire de chaussures, on insiste, c'est notre mission à l'atte, une bonne paire de chaussures, ouais, avec du matériel de qualité, parce qu'il y a 1400 km et une paire de chaussures, ça fait que 2000 km, donc il ne faut pas que ce soit des chaussures anciennes. Les vêtements de pluie, la base de documentation, je pense au Miam Miam Dodo, ouais, qui est un document qui est quasiment obligatoire d'avoir. Ça répertorie tout ce qui est Miam Miam et Dodo, oui, de part et d'autre du Trait jusqu'à Compostelle. Donc voilà, c'est la Bible des pèlerins, et que ce soit une sandwicherie ou un 4 étoiles. Voilà.
Oui, chacun ensuite a le choix d'organiser, je dirais, ce déplacement, ces différentes stations, arrêts, et la façon dont il va se nourrir et s'héberger.
Voilà, chacun définit son itinéraire, ses étapes. La seule contrainte que nous, dans l'association, nous imposons, c'est si vous faites une réservation et que vous n'êtes pas en mesure de tenir cette réservation, avertissez le logeur. Parce que vous faites une réservation en l'air, c'est parole contre parole, il n'y a pas d'empreinte carte bleue, il n'y a rien du tout, c'est uniquement sur la parole. Donc bien avertir si on n'y va pas. Ensuite, ben, chacun adapte ses itinéraires, ses étapes, à sa forme, à ce...
Oui, effectivement. Donc, comme tu l'as évoqué, c'est finalement la première semaine qui va être la plus difficile, parce qu'il faut, il faut s'adapter à ces nouvelles conditions. Il faut aussi, c'est quand même une performance physique de faire tous les jours une vingtaine de kilomètres. Et donc, il faut rentrer dans ce trip, je dirais. Et après, les choses vont s'aplanir et le plaisir va arriver, je dirais, la deuxième semaine.
À la deuxième semaine, c'est fantastique. Quand on est sorti du problème physique, on a l'impression... Moi, j'ai l'impression d'être assis dans ma voiture sur l'autoroute et de voir le paysage défiler. On ne s'occupe plus du physique. Par contre, il faut boire toutes les heures, manger une petite barre céréale toutes les 2h30, ouais, 3h. Voilà, il y a un rythme, il faut entretenir la machine. Et on le voit, quand j'ai commencé à avoir un GPS, à des moments, je voyais ma vitesse chuter de 4,2, elle descendait à 4, à 3,8. Je me suis dit, mais pourquoi on ralentit? Et en fait, ça faisait plus d'une heure qu'on marchait. Et le fait de boire un quart de litre d'eau, on revient au nominal, c'est incroyable ce que ça fait sur le corps. Donc c'est très important.
Oui. Bien s'alimenter, parce qu'effectivement, c'est quand même une performance physique et il faut donc entretenir la machine, je dirais.
Voilà, donc boire toutes les heures, manger un petit truc, un petit peu de sucre, un casse-croûte le midi et puis un bon repas le soir. Et quand vous êtes en Espagne, il y a un très bon repas, les alberges servent un très bon repas le soir avec deux plats.
Et tout de quoi se sustenter suffisamment, oui, pour continuer. Oui. Et ensuite, alors, le choix de l'hébergement, comment ça se passe?
Alors les hébergements, bien, ça va être, il y a plusieurs types d'hébergements. Hébergement pèlerin, c'est essentiellement les donativos, c'est-à-dire on donne en fonction de ses moyens. Par exemple, le gîte Saint-Roch à Montpellier, c'est un gîte très ancien qui est en donativo. Ouais. Chacun donne en fonction de ses moyens. Ensuite, il y a des gîtes communaux qui ne sont pas trop chers. Je pense de mémoire comme ça, le gîte de Saint-Christol avant Montpellier, qui est pas mal, avec des bénévoles qui s'en chargent très bien. Après, vous avez tout le panel de gîtes, les Airbnb, les hôtels. En Espagne, il y a même les Paradors, la chaîne d'hôtels 5 étoiles dans les monuments historiques. Voilà.
Oui, chacun fait son choix en fonction de ses moyens, de ses envies.
Chacun son chemin.
Ouais. Bien, et bien sûr, il faut toujours prévoir quand même, il peut y avoir des aléas et prévoir les imprévus parfois. Voilà, la météo notamment peut être un problème.
La météo, une cape de pluie qui englobe le sac à dos, et puis voilà, c'est bon. Hein, ça. On a marché sous la pluie, on a marché sous la neige, ça se passe bien.
Les intempéries ne viennent pas modifier le programme, en quelque
sorte. Non, absolument pas. Au départ, on craint un petit peu ça, et en fait, sauf si c'est cataclysmique, hein, bien sûr, hein, une grosse tempête ou un truc comme ça, ben, plus personne ne marche, les hébergeurs retiennent les pèlerins chez eux, voire même la Fédération de randonnée pédestre, j'ai vu dans le Gers, intervient pour pas que les gens prennent le GR qui est complètement détrempé. Donc voilà, il y a une chaîne d'aide qui est très très efficace.
Et ensuite, ce que l'on peut dire aussi, c'est que il y a forcément la prise en compte par les personnes et puis faire face aux imprévus et continuer avec le moral, sachant que quand même il y a la période qui compte. La meilleure période finalement pour prévoir ce genre de périple.
Ben, ça dépend ce qu'on recherche. Là, on a deux pèlerins qui ont marché l'hiver dernier. Il y en a un qui est parti du Gros du Roi, en 15 février, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Et il l'a fait donc tout seul. Là, les hébergements sont quasiment fermés. Ouais. Voilà, il voulait de la solitude. J'en ai un autre qui est parti de Rome, un 15 décembre, qui a donc traversé les Alpes. Avec son bivouac, et il a fait, lui, un 65 km par jour. Hein. Il marchait, c'était un jeune.
Voilà. Oui,
donc chacun va y mettre. Effectivement, si on marche au printemps, on a les jours les plus longs. Si on marche en automne, les jours sont un petit peu plus courts, mais il y a des fruits dans les arbres. Voilà.
Voilà, chacun est libre de choisir ce qu'il pensera être la meilleure période pour faire face à toutes ces situations. Donc, je rappelle que vous êtes là pour conseiller, aider, n'est-ce pas? Donc, c'est une fois par mois, le mercredi, que Guy Mathéo et les gens de son association sont à votre écoute pour vous aider à préparer donc ce périple, à vous aider à penser à tous les éléments qu'il est nécessaire de compulser de façon à faire le plus possible et préparer le mieux possible cet événement, sachant que bien sûr il y a un numéro de téléphone qui est le 07 66 45 83 72. Ils ont aussi un site, n'est-ce pas?
Oui.
C'est compostelle-en-languedoc.fr. Voilà. Donc, vous retrouverez d'ailleurs toutes ces informations sur le podcast qui sera joint à cette émission. Donc, notre chronique hebdomadaire numéro 19 se termine. Donc, pour retrouver nos émissions, allez sur notre site, bien sûr. www.radiofmplus.org en minuscule. Tout attaché. Vous pourrez récupérer le podcast de cette émission et des précédentes d'ailleurs, soit en allant directement dans le programme, soit en cliquant et en ouvrant la rubrique ici et maintenant. Bien sûr, vous pouvez interagir sur ce podcast ou directement par mail à contact@radiofmplus.org. Merci Guy pour toutes ces informations.
Merci Robert.
Sur les mythiques chemins de Compostelle. On se sépare en musique avec une chanson assez particulière que tu nous proposes, qui a été écrite par Carole Padet et qui est chantée par Guy Spica.
Qui l'accompagne au ukulélé, de nouveaux adhérents qui égayent toutes nos rencontres avec leur création, adaptation de chansons qui existent.
Voilà, bonne continuation, bye bye, à la semaine prochaine, 10h.
Cette aventure est belle. Tous les chants des pèlerins alourdis par leur sac à dos vont porter au loin la chanson du gay Camino de Compostelle. Mes amis, je m'en suis allé. Aujourd'hui, je n'ai plus de clé. Car ma maison s'étend vers l'horizon, vers Compostelle. Je découvre sur mon chemin tant de choses qui me font du bien. Au fond du cœur, je n'ai plus de chagrin. Le compost. cette aventure est belle. Tous les chants des pèlerins alourdis par leur sac à dos vont porter au loin la chanson du vieux Camino de Compostelle. Les amis, nous allons à pied, prenez le temps de les écouter, car ce sont eux qui vont vous transporter vers Compostelle. Chacun son rythme, chacun son temps, j'arriverai je ne sais pas quand, sans un sou mais plus riche qu'avant, de Compostelle. Chanson du gay Camino de Compostelle. Compostelle, oui, Compostelle, nous cheminons vers Compostelle. Compostelle, oui, Compostelle, oh que cette aventure est belle. Tous les chants des pèlerins, alourdis par leur sac à dos, vont porter au loin la chanson du gay Camino.